tous ceux qui nous rejoignent sur Eau de Radio fréquence 91.3. Nous nous présentons, nous sommes la classe de 3e A du collège Édouard Vaillant à Bordeaux.
Nous sommes aujourd'hui 12 élèves. Fatma.
Bonjour.
Chloé.
Bonjour.
Nafissa.
Bonjour.
Fatima.
Bonjour.
Shaïma.
Bonjour.
Rémi.
Bonjour.
Yasmine.
Bonjour.
Mélina.
Bonjour.
Lilith.
Bonjour.
Dalila.
Bonjour.
Zina.
Bonjour.
Et moi-même, Amel.
Dans le cadre du projet Engagement pluriel, nous avons rencontré et interviewé 9 personnalités engagées. Cette émission est l'aboutissement de 6 mois de travail avec notre prof de français, Madame Kazad, et notre prof d'arabe, Madame Nguyen. Au départ, nous n'avions pas d'idée sur l'engagement. Aujourd'hui, cela nous a donné envie de nous engager à notre tour.
Voici les personnes que nous avons rencontrées.
Bonjour, je m'appelle bien David Dumeau, je suis médiateur social à la mairie de Bordeaux depuis 2 ans. Je suis bénévole aussi à Médecins du Monde depuis 4 ans et j'étais aussi bénévole auparavant sur une association de promotion culturelle en Roumanie.
Alors, je m'appelle Astrid Compagnon, j'ai 41 ans et je travaille à l'IFED Aquitaine, Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement. Et j'y suis coordinatrice de formation et en plus de ça, j'accompagne les stagiaires qui font leur formation de coordonnateurs de projets de solidarité internationale et locale. Je les accompagne sur tout le déroulé de leur formation, en fait, les 2 ans parmi nous. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Vincent Méni, j'ai 24 ans. Je suis actuellement étudiant dans une formation professionnelle qui s'appelle l'IFED, qui forme à des projets de solidarité internationale et aussi des projets de solidarité en France. Avant, je suis parti avec une bourse qui s'appelle la bourse Zelidja en Chine et au Tibet. Et puis, je suis parti à La Réunion faire un BTS agricole. Grâce à ce BTS agricole à La Réunion, j'ai pu partir faire des stages à Madagascar et en Afrique du Sud. Et puis, de retour en France, j'ai fait une licence professionnelle conduite de projets internationaux et de développement. Et dans cette formation, j'ai créé une association qui s'appelle Yapluka, avec un ami, pour réaliser une ferme dans un petit village à Madagascar pour aider les paysans à mieux vivre de leur agriculture et puis à aider à réduire la pauvreté dans ce village.
Donc, je m'appelle Isabelle, donc je travaille au collectif Bordeaux Nord depuis pratiquement 10 ans, avec une coupure de 2 ans entre les deux. Enfin, ça fait une dizaine d'années que je suis animatrice. Et donc, du coup, ils m'ont embauchée pour faire de la médiation, le collectif Bordeaux Nord, pour faire de la médiation, pour être auprès du public, faire du lien entre vous et nous, et faire remonter vos envies culturelles, les projets. Voilà, donc le collectif Bordeaux Nord, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1998. Et les membres fondateurs, c'est le Centre social Bordeaux Nord et la boîte à jouer. Parce qu'on avait repéré que sur le quartier, il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur le plan culturel. Donc il y a eu une envie de l'institution, c'est assez exceptionnel, de mettre de l'argent sur ce quartier pour développer des actions culturelles. Donc depuis, l'asso va avoir 15 ans au mois de juillet.
Alors je m'appelle Achraf Essaye, je suis référent au service politique de la ville au niveau de la Roux School Barbet. J'ai 30 ans, j'habite sur Bordeaux, voilà.
Alors je m'appelle Madame Descoub et j'étais professeure dans ce collège pendant 17 ans.
Eh bien, je suis médecin psychiatre, je travaille donc au CHU de Saint-André. Je suis également anthropologue et j'ai une consultation qui s'appelle la consultation transculturelle et j'accueille avec une équipe des populations migrantes pour un soin psychothérapeutique, c'est-à-dire un soin par les mots.
La personne que vous venez d'écouter est Claire Mestre. Nous avons également interviewé Angel Villar, résistant républicain espagnol, et Edith Marouet-Jules, doctorante en géographie, qui travaille sur la question du genre et de la mixité.
Nous allons tout de suite leur donner la parole. Ils répondent à cette question, qu'est-ce qu'est l'engagement pour vous?
Le mot engagement, pour moi, il signifie, je le rattacherai à la mobilisation, se mobiliser pour quelque chose dont on souhaite observer un changement. Vraiment une volonté de changement et comment un individu, une personne peut s'investir individuellement, collectivement, pour y participer.
Pour moi, l'engagement, c'est avoir des actes ou en tout cas des pratiques, s'investir dans des choses qui sont en accord avec ses propres valeurs et qui ont un intérêt collectifs ou communs ou qui servent à quelque chose. Je différencie l'engagement du militantisme. Le militantisme, pour moi, c'est vraiment se battre pour des idées. L'engagement, c'est aller au-delà de se battre. C'est ne pas être que dans le discours. C'est être dans les actes aussi. C'est vraiment donner un sens. C'est être vraiment investi au quotidien dans ce en quoi on croit. Et pour moi, quand même, sur l'engagement, je mets quand même une valeur incontournable qui est que ça serve collectivement. Et je l'associe beaucoup avec... je pense qu'on ne le faisait pas avant, je ne l'associais pas forcément il y a 10 ans, mais je l'associe beaucoup avec la notion de citoyenneté.
Pour moi, l'engagement, si je devais le définir vraiment rapidement, c'est faire des choix. Et faire des choix dans l'action. C'est-à-dire, je vois que quelque chose me révolte ou j'aime pas quelque chose ou je trouve qu'il faut œuvrer de telle manière ou être dans tel sens et puis j'agis dans ce sens-là. Et je choisis d'agir dans ce sens-là.
Alors l'engagement, c'est un mot très fort hein, déjà. Est-ce qu'on est engagé aujourd'hui ? Ou est-ce que moi je suis engagé dans cette société-là ? Le mot engagement, ça veut dire prendre position sur, sur des problèmes de société qui nous inquiètent, qui nous dérangent, et s'engager pour changer ces problèmes, pour une transformation sociale. Voilà. L'engagement pour moi, c'est participer à une transformation sociale de notre société.
L'engagement se fait au quotidien, donc l'engagement c'est au quotidien, c'est un devoir citoyen, donc on peut être engagé sur tous les champs. Un citoyen peut s'engager à son niveau, dans la vie quotidienne, dans son quartier, dans sa ville, dans son travail, etc. Donc l'engagement c'est quelque chose d'humain.
Alors m'engager, c'est donner mes compétences à des gens qui sont fragiles, plus fragiles que moi, hein, et leur permettre d'accéder à leurs droits.
L'engagement, c'est une réalité quotidienne dans mon métier. Hein. C'est un engagement, d'abord professionnel, comme je vous le disais, c'est un engagement citoyen. C'est faire tout pour que toute personne, même si elle ne parle pas le français, puisse avoir accès à un soin comme celui que je propose, par les mots. Ça, c'est un véritable engagement.
Alors, mon engagement, ça représente d'abord un regard et une manière de vivre au quotidien. J'applique ce que j'appelle le féminisme au quotidien, c'est-à-dire qu'avec de l'humour, hein, souvent, hein, mais parfois aussi avec de la vigueur et de la rigueur, je ne laisse pas passer des choses qui me semblent injustes ou injustifiées et aussi, quand on est maman, comme je suis, le féminisme au quotidien, c'est l'éducation de ses enfants pour répondre à la fois à ces attaques-là, mais aussi pour en faire des êtres libres, totalement libres de leur choix.
Nous avons entendu que pour beaucoup d'entre eux, l'engagement s'incarne dans la pratique. Alors, de quelle manière ?
Mon engagement, il se manifeste déjà, je pense, par une capacité d'écoute sur les situations, et une volonté de vouloir échanger avec les personnes et d'être disponible. De ne pas forcément poser un mur entre elle et toi, parce qu'il peut y avoir une différence. Et ça m'impacte à la fois quand je travaille professionnellement et aussi sur, je vais pas dire ma carrière bénévole, mais sur tous les sujets sur lesquels j'ai pu m'engager. Et c'est avant tout, je pense que c'est une posture, c'est un savoir-être et un peu un état d'esprit. Et alors après, ça peut t'amener des fois très loin, ça t'amène à faire des rencontres aussi, et je peux essayer difficilement juste matérialisable en disant de 8h à 4h ou deux fois par semaine, je vais voir des personnes qui vivent dans des conditions de précarité. Non, c'est quelque chose aussi qui est plus aussi dans une posture aussi. Je le réduirai pas juste à des horaires et qu'est-ce que je fais en tant que bénévole, quoi.
Ça manifeste par le respect quand même de certaines choses, alors de certains actes aussi, la sensibilisation quotidienne à certaines valeurs. Il se manifeste quand je peux témoigner aussi auprès d'enfants ou de jeunes, enfin témoigner, intervenir ou accompagner en tout cas pour essayer de faire évoluer un tout petit peu, en fait, leur façon de penser ou de comprendre les choses. Ils se manifestent aussi à travers certaines actions avec le centre social. Ils se manifestent en ayant fait adhérer l'IFED Aquitaine au collectif Bordeaux Nord, que vous connaissez peut-être aussi, qui est dans le quartier, pour que nos stagiaires aient aussi accès à la culture. Enfin, c'est, pour moi, c'est un ensemble de choses. C'est pas des grandes choses. Mais c'est quand même, ça me paraît important parce que pour l'instant j'en déroge pas. Après c'est à mon niveau. Et puis l'engagement, le reste du temps, c'est dans mon travail.
Mais j'essaye qu'il se manifeste au quotidien, c'est-à-dire que dans mes actions, dans comment je suis tous les jours par rapport à bah, certaines thématiques qui me sont un peu chères, comme l'agriculture, la consommation, bah, essayer de faire attention à ce que je vais consommer, etc. Ça correspond à mon engagement au quotidien. Et après, c'est un engagement, bah, du coup, avec mon projet associatif, avec la création de cette association, qui est vraiment une volonté bah, de jeunes. En l'occurrence, nous, la moyenne d'âge dans l'association, c'est 24 ans, de se dire qu'on voit qu'il y a des pays ou des agriculteurs qui ne peuvent pas se développer comme ils l'entendraient le faire, parce qu'ils ont trop de contraintes. Et du coup, nous, on va essayer, avec eux, de construire un projet pour le bien-être de la communauté à Madagascar.
Dans le milieu professionnel, je pense que le premier engagement, c'est quand on est salarié. Ben, c'est souvent batailler avec son patron pour soit ses horaires de travail, son salaire, ses conditions de travail. Donc mon premier engagement, ça a été certainement très jeune, puisque j'ai commencé à bosser très jeune. C'est exemple que les patrons respectent les conventions collectives. Voilà, quand on fait des heures supplémentaires, essayer de se les faire payer. Voilà, c'est ça. Mes premiers engagements, c'était ça. Je devais avoir 18 ans.
Ben, elle se manifeste sous plusieurs formes, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, du coup, c'est soit par rapport au contact avec les assos, les jeunes, les partenaires, etc. Où on essaie donc à partir d'une idée ou d'une problématique ou d'un constat donné pour pouvoir créer, impulser quelque chose, un projet, une dynamique pour qu'il y ait un rayonnement. Donc ça se fait sous cette manière, en quelque sorte.
Je commence, je débute tout juste. Ça fait un an que je suis engagée dans deux associations, dont j'ai mis le nom ici. Oui, je me sens engagée, mais je me sentais déjà engagée quand j'étais enseignante. Parce qu'un enseignant, il s'engage. Quand il est avec des enfants, il s'engage. Il s'engage dans des projets culturels. Il essaie de faire du mieux possible pour que les enfants soient intéressés, donc ils s'engagent, ils donnent de sa personne.
En cours de français et d'arabe, nous avons travaillé sur l'engagement. Au cours de l'émission, vous allez entendre des poèmes engagés que nous avons écrits sur les violences aux femmes, sur l'environnement, la pauvreté ou la Palestine.
Mais avant, nous vous proposons d'écouter un premier témoignage, celui d'Ashraf S. Sayé. Il travaille au pôle politique de la ville de la Rock School Barbée, à Bordeaux.
Nous avons particulièrement apprécié son engagement artistique auprès de jeunes artistes.
De quelle manière je peux procéder à mon niveau avec mes acquis, alors mes acquis professionnels que j'ai pu développer au sein des différents métiers que j'ai effectués dans le passé, par rapport à mon vécu, par rapport à mon milieu où j'ai évolué, c'est sous ces formes-là où j'essaye de les dynamiser, de leur donner une espèce de force positive pour pouvoir essayer de changer les choses dans le bon sens.
Comment accompagnez-vous les jeunes ?
On essaie donc de rencontrer les groupes déjà formés, donc de jeunes, que ce soit en collectif, en asso, en groupe ou même des projets individuels. On essaie d'établir d'abord un constat, donc de quoi ils ont besoin, essayer d'évaluer leurs compétences artistiques pour pouvoir enclencher des méthodes de travail avec eux. Donc ça peut être un artiste ou un groupe, un collectif qui ont déjà un certain niveau de pratique donc artistique, donc en l'occurrence les pratiques urbaines, hip-hop, R&B, dancehall, raga, etc., qui peuvent avoir déjà un certain niveau de pratique. Donc du coup, nous, on s'inscrit seulement dans une forme d'accompagnement en mettant à disposition des outils. Donc ça peut être des locaux donc, de répétition, d'enregistrement, un lieu où organiser donc, des concerts, des spectacles, où ils peuvent donc se projeter sur du long terme, genre se projeter sur 3 à 4 mois pour organiser un concert et essayer de comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, donc du plat, essayer d'apporter des
des ingrédients, c'est ça, pour pouvoir en fait améliorer ce plat. Donc ces ingrédients, c'est leur donner des conseils sur la communication, comment réaliser un visuel, toute la partie communication, choix des médias, comment réaliser un teaser pour annoncer l'événement, toutes ces choses super simples et qui des fois demandent du travail, de l'investissement du groupe. Donc ça suscite chez eux une envie de continuer le projet, de le réaliser. Donc il y a des outils que nous mettons en place pour pouvoir tout simplement qu'ils réalisent leur projet et pourquoi pas se projeter sur d'autres projets sur du long terme. Voilà. Et le but, c'est de former bien sûr des acteurs associatifs et culturels autonomes et indépendants.
Pauvre petit garçon, pourquoi pleures-tu ? Parce que t'aimes pas les légumes ? Pourquoi pleures-tu ? Parce que t'as la flemme de prendre ta douche ? Pourquoi pleures-tu ? Parce qu'on est lundi matin et qu'il y a cours ? Pourquoi pleure-t-il ? Parce qu'il n'a pas de légumes, encore moins du pain. Pourquoi pleure-t-il ? Parce qu'il n'a pas une goutte d'eau. Pourquoi pleure-t-il ? Parce qu'il aimerait bien apprendre l'alphabet pour au moins savoir lire. Certains sont nés avec une cuillère en argent sur un plateau en or et d'autres sont destinés au désastre. Devant tout ce qui brille, l'homme ne voit que lui-même. Un poème de Nafisa Kali.
On reste dans l'engagement artistique et culturel avec Isabelle Valade qui travaille au collectif Bordeaux Nord. Elle nous parle des activités proposées.
Aujourd'hui, vous travaillez en tant que médiatrice socioculturelle au collectif Bordeaux Nord. Pouvez-vous nous présenter le collectif en quelques mots ?
Oui, alors donc le collectif Bordeaux Nord, comme je vous disais, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1998, donc suite à une envie institutionnelle. C'était Jean-Michel Lucas de la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, qui a vu que sur les quartiers nord, il y avait beaucoup d'actions culturelles avec le Centre Social Bordeaux Nord, il y avait la Boîte à Jouer, le Globe Théâtre, à l'époque il y avait un café musique qui s'appelait le Telonius. Et donc ce collectif s'est créé avec ces quatre structures, un centre social, un café musique et deux théâtres. Le but, c'est que les gens de ce quartier puissent au moins aller voir des spectacles dans les lieux qui étaient là devant eux, mais ils n'y rentraient jamais. Il y a plein de gens qui passaient tous les jours devant la Boîte à Jouer ou devant le Globe, théâtre, ils n'y rentraient pas. Parce que quand on n'est pas habitué à aller au spectacle, on pense que ce n'est pas pour nous. On pense que le théâtre, c'est des sphères pour plus élitistes, des intellectuels, alors que pas du tout. Le théâtre, il faut savoir que c'est très populaire à la base. Et donc du coup, le but du collectif, c'était de faire accéder à cette culture les gens des quartiers nord. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de culture. Ça veut dire que cette culture-là, elle était devant eux, mais ils n'y allaient pas. Parce que ça fout la trouille, hein, des fois, de se retrouver dans un théâtre quand on n'a pas l'habitude, de se retrouver dans un public qui rentre dans une salle et tout ça. Donc le premier objectif du collectif Bordeaux Nord, ça a été faire de l'accompagnement spectacle. Voilà.
Quelles sont vos missions en tant que médiatrice socioculturelle au sein de ce collectif ?
Alors, comme je vous disais, les missions principales, c'est d'accompagner les gens au spectacle, de leur faire rencontrer aussi les artistes. C'est aussi, on mène des ateliers théâtre. Mais il y a un atelier quand même, ça fait 10 ans qu'on le mène, qui s'appelle Quartier en Or. Et c'est un atelier ouvert à tous et à toutes, ados, adultes. Et tous les ans, on prend un thème très différent. Cet atelier est ouvert pendant 2 mois. Les gens viennent s'essayer au théâtre. On travaille sur des improvisations avec le thème choisi. Donc par exemple, cette année, c'est sur les SDF, sur les sans domicile fixe. Donc pendant 2 mois, il y a eu des impros et maintenant, on a attaqué des textes, il y en a qui ont écrit leurs textes et on va jouer sur toutes les fêtes des quartiers nord, donc Bordeaux Nord, la fête de Bordeaux Nord, la fête des Aubiers, la fête du Grand Parc et en septembre, on fera la fête, le festival nomade à Bacalan. Donc ça voilà, c'est donc aussi des pratiques artistiques donc avec ces ateliers théâtre et c'est aider, soutenir des projets de personnes mais qui ont un lien bien sûr avec la culture. On a aidé une jeune femme qui montait un spectacle jeune public. C'est, voilà, on peut faire de l'accompagnement à des jeunes artistes dans tous les sens du terme, jeunes à 15 ans, mais comme il y a des jeunes artistes à 40 ans qui commencent juste, voilà.
le poumon de la terre. Le poumon de la terre instable, des preuves irréfutables, l'oxygène indispensable. Cette situation est insupportable. Ce chêne massacré, ces chênes cisaillés, ces chênes broyés, nos poumons s'épuisent. Un poème d'Abdelkader Belassous.
D'autres personnes s'engagent pour le développement local ou international. C'est le cas de Vincent Meny, stagiaire à l'IFED. Il a beaucoup voyagé.
Quelle situation dans quel pays vous a le plus touché ?
Je crois que le premier voyage que j'ai fait, quand j'avais 13 ans avec mes parents, c'était le premier voyage au Maroc. Et puis on allait marcher dans le désert. Et je me souviens, il y avait des gens, des petits-enfants, des gens de mon âge, etc. Et je les ai vus vivre dans leur petit village, etc. Et puis les enfants, ils avaient des mouches tout autour des yeux. Parce que les yeux, ils pleurent, parce qu'il y a beaucoup de poussière, etc. Et ils ne se battaient même plus pour enlever les mouches, c'était devenu naturel pour eux, etc. Quelque part, quand on est enfant et puis qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe dans le monde, et puis on se dit, c'est mon pote. C'était mes premiers amis, un peu de voyage, en fait, ces gens-là. Et ça m'a marqué énormément sur la différence du niveau de vie, quoi. Qu'est-ce qui fait que moi j'ai eu la chance d'arriver en France, d'avoir le niveau de vie que je connais, etc. Et que eux, ce que je vois, ce qui me choque dans leur dénuement un peu matériel, etc. Pourquoi ça se passe comme ça dans le monde un peu ? Et ça a été un peu la première chose qui m'a dit ouais, faut que j'aille découvrir, ce qui se passe, faut que je vois un peu. Faut pas que je m'arrête à ce qu'on me dit ou ce qu'on essaye de m'enseigner ou des choses qu'on voit à la télé, mais ça fait plus jeu vidéo que vrai, quoi. Et du coup, après j'ai toujours eu envie de repartir pour voyager.
Et qu'en pensez-vous de l'égalité aujourd'hui dans le monde ?
Je pense, c'est une très bonne question que vous me posez, parce que quelque part on est forcé de constater qu'il y a eu des avancées dans l'égalité. Je pense que, par exemple, les droits de l'homme, la démocratie, ce genre de concepts qui sont quand même assez récents, ça a 300, 200, même des fois les droits de l'homme encore plus récents. Après, moi, dans le monde agricole, force est de constater que, 20% de la population mondiale concentre 80% des richesses. Que quand même le pouvoir de certaines personnes ou des lobbies empêche le développement de gens qui ont juste envie de vivre. Y a des exemples après plus économiques, mais j'ai une étude de cas comme ça qui se passait au Sénégal, où il y avait un petit paysan qui faisait des poulets juste à côté du grand marché à Dakar. Et les coûts pour faire son poulet étaient supérieurs que le poulet qui était importé d'Europe sur le marché. Et du coup, ce paysan, même s'il a toute la volonté du monde d'essayer de faire une activité, d'essayer de pouvoir vivre de sa production, etc., il ne peut pas le faire. Parce que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont préférer acheter du poulet européen. Il y a encore plein d'autres exemples sur les inégalités, sur beaucoup de choses. Après, les inégalités ou l'égalité, c'est aussi un concept qui est très occidental. Ça veut dire qu'un fonctionnement d'un village malgache dans la brousse, on peut trouver ça profondément inégalitaire. Ça veut dire, par exemple, les vieux du village vont concentrer énormément de pouvoir. Donc les jeunes ne sont pas sur le même pied d'égalité que les vieux. Après, est-ce qu'on doit juger ça ? C'est une bonne question. Je sais pas.
Nous avons tort. La nature, si belle, si bien faite, l'homme, si cruel, sans cœur. Nous nous croyons invincibles, mais la nature, elle aussi peut nous détruire. À travers les océans, nous polluons. Donnons-nous un bon exemple à nos descendants. C'était un poème de Rémi Coppol.
Nous restons dans l'engagement lié au développement local et international. Astrid Compagnon est responsable pédagogique de l'IFED. Ce qui nous a touchés, c'est sa passion pour son métier.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Ce qui me plaît dans mon métier, c'est que d'abord, c'est un métier qui n'est pas très routinier. C'est que je suis en contact avec des gens qui sont extraordinaires, tant l'équipe avec qui je travaille que les stagiaires que j'ai au quotidien et puis ceux que j'accompagne à distance. Et puis les professionnels qui interviennent aussi dans la formation, puisque c'est une formation professionnelle. Donc ça me permet, moi, beaucoup d'avancer et d'apprendre encore tous les jours. Donc ça, c'est vraiment super. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est que les choses ne sont pas figées. Ça veut dire que je contribue, ou en tout cas la structure dans laquelle j'évolue et je travaille, contribue à faire évoluer les mentalités. Et nous, on évolue aussi au fur et à mesure. Et ça, je crois que c'est très important, parce que je pense qu'on peut apprendre toute notre vie, et puis évoluer aussi, et puis faire des choix différents aussi toute notre vie. Et puis ce qui me plaît aussi, c'est que j'ai une relative liberté de faire des choix encore pendant que je travaille, et donc de m'orienter plus vers telle direction. Et c'est cette possibilité du choix. Et je crois que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir cumuler tout ça. Des gens extraordinaires, des choix, du plaisir, et puis grandir encore, c'est super. Voilà, moi c'est ça qui me plaît.
Et quelle est votre motivation ?
J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai croisé des gens géniaux, vraiment géniaux, et de partout. Je pense que c'est beaucoup lié à ma famille aussi, parce que j'avais un grand-père super engagé de toutes les causes, voilà. Et au long du parcours, en fait, j'ai vraiment croisé des gens d'abord qui ont été super avec moi. On a toujours un intérêt personnel, hein, je crois, dans l'engagement. Faut pas croire que c'est comme ça gratuit. Et ensuite, qui me passionnait, quoi, qui était profond, qui était vraiment, habité, quoi, par quelque chose, qui était vraiment et qui était passionné. Et je me suis dit que si des gens étaient capables de me donner ça, c'était aussi important que moi je redonne à mon tour aussi. Et que voilà. Et puis je trouve que c'est normal, quoi, qu'on partage des choses voilà. Je trouve que c'est améliorer le quotidien, et je ne peux pas l'expliquer autrement que comme ça.
Cette femme au joli sourire, cette femme au joli sourire, cette femme qui cache ses blessures, cette femme qui ne peut pas s'exprimer, toutes ses souffrances, tous ses combats, toutes ses soumissions, la peur de toujours être battue. Comment lutter contre l'isolement de cette femme? Toutes ses douleurs à cause de l'homme qu'elle aime. Un poème de Chloé Normand.
On se présente Yasmine, Shaima, Fatma, Dalila, Fatima et Amel. Nous faisons du foot pour la plupart depuis l'âge de 6 ans, mais dans notre collège depuis 4 ans. On a commencé dans les city stades de nos quartiers et tout de suite on a senti la discrimination entre les filles et les garçons. Même s'il y en a un peu, dans notre collège il y en a beaucoup moins. Les garçons nous soutiennent, nous encouragent et nous entraînent souvent.
Le sport est une pratique physique pour les hommes comme pour les femmes. Il faut arrêter de dire que certains sports sont typiquement féminins ou masculins. Il n'y a aucune différence dans la pratique. Une femme peut faire d'aussi bonnes choses qu'un homme dans n'importe quel sport et inversement.
Je trouve ça pitoyable de différencier l'homme et la femme. Par exemple, une footballeuse professionnelle d'un bon niveau sera payée 10 000 euros par mois, alors qu'un homme de bon niveau peut être payé 70 fois plus. Un autre exemple, dans la cour de récré ou de classe, on ne verra que rarement un groupe de garçons ou de filles mélangés. En sport aussi, ou lors d'un match, on donnera le ballon à l'équipe qui contiendra une fille, comme si la fille était un handicap. Justement, on a rencontré une personne du même avis, qui s'appelle Edith Marouet-Jules. On a pu l'interviewer. Écoutez-la.
Dans le milieu sportif, est-ce que vous avez déjà eu des préjugés, des réflexions mal placées ?
Oui, alors moi j'ai étudié le sport, hein, beaucoup, comme vous l'avez vu. Donc j'ai étudié toutes les disciplines sportives. Hein. Ce que j'ai vu, c'est qu'on ne se sortira pas de cette question de la place des filles dans le sport tant qu'on n'aura pas compris que le sport, c'est aussi la possibilité de jouer ensemble, d'être ensemble filles-garçons. en dehors de ce qu'on appelle la performance, bien que les filles puissent être très performantes aussi. Hein. Sauf que on a un a priori sur la performance en disant de toute façon les garçons sont plus physiques, sont plus forts, ils vont y arriver mieux, alors qu'ils sont plus éduqués à, notamment le football. Hein. Les garçons sont plus éduqués dès leur toute petite enfance à avoir l'autorisation de jouer au football que les filles, donc ils ont en majorité plus de techniques. Donc tant qu'on est sur cette question de la performance, à ce moment-là, on va avoir beaucoup de mal à ce que les filles et garçons jouent ensemble. Voilà, parce que les moyens sont dédiés aux garçons. Il faut savoir quand même qu'en France, sur l'ensemble des clubs de foot, il n'y en a que 9% qui ont des équipes féminines. Voilà. Donc il y a ça, et il y a aussi dans l'organisation du sport, le fait que le sport masculin ait beaucoup plus de valeur que le sport féminin.
Pourquoi avoir choisi cet engagement ?
Alors d'abord, je ne parlerai pas de choix. Je dirais que je n'ai pas choisi d'être féministe. Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours habité, et c'est en tout cas quelque chose qui m'a construit au niveau de mon identité. C'est-à-dire que je me suis toujours interrogée sur la place des jeunes filles quand j'étais petite fille, puis quand j'étais collégienne, puis étudiante, et enfin sur la place des femmes quand je suis rentrée dans le monde des femmes, et sur la place des mères quand je suis devenue maman. Je pense que ce qui est premier, en fait, dans mon engagement, c'est la question de la justice. En fait, très vite, j'ai senti qu'il y avait des injustices que je supportais pas, et notamment qui étaient liées au fait qu'on vive dans un pays libre et démocratique où les gens naissent ce qu'on appelle égaux en droit, mais aussi égaux en traitement. Et très vite, j'ai senti que il y avait une inégalité de traitement. En fait, on voyait les filles d'une manière différente que celle des garçons. Comme d'autres combats aussi hein, sont dans ce sens-là, que j'ai aussi épousé, hein, qui sont la question du racisme, par exemple, hein, le féminisme, le racisme et l'homophobie, hein, ce qu'on appelle l'homophobie, sont liés intimement entre eux par rapport à la question de la justice sociale, quoi. C'est-à-dire, est-il juste de considérer une personne inférieure ou moins importante simplement par sa naissance biologique, un sexe fille sa naissance par rapport à sa couleur de peau ou par rapport à son orientation sexuelle.
Égalité. L'amour doit défendre l'égalité, la haine ne cesse de la rejeter. Le monde a pour devoir de la transmettre, l'amour également de la reconnaître. La haine détruit des terres et ne cesse de commettre des guerres. Égalité, toi qui es un intrus, tu te bats tant pour être reconnu. Égalité, dans certains pays tu n'es qu'éphémère. Aujourd'hui tu existes, demain on t'enterre. Mais ce n'est pas cela qui te désarmera, car tu es si forte et ne baisseras pas les bras. Et peu importe les conséquences, tu t'en sortiras toujours avec aisance. Un poème d'Amel Chérif.
Certains professionnels s'investissent dans des causes plus sociales, comme l'insertion des publics migrants. Madame Descoubes était professeure dans notre collège Édouard Vaillant à Bordeaux. Aujourd'hui, elle s'est engagée auprès des jeunes migrants. Elle nous a raconté, hors micro, l'histoire d'une mineure qu'elle a trouvée dans la rue, sous le pont de Pierre à Bordeaux. Cette histoire nous a beaucoup touchés. Écoutez Madame Descoubes, elle revient sur son engagement auprès des migrants.
Pourquoi vous avez choisi d'aider des migrants ?
Les migrants, pour moi, sont certainement les personnes qui sont les plus fragiles, parce qu'ils ont connu des situations terribles souvent. Ils viennent pas faire du tourisme hein, en France, c'est pas ça. Hein. Ils partent, ils fuient des situations ou économiques, et ensuite ils fuient aussi des situations dans des pays où ils sont poursuivis, soit menacés, soit des pays en guerre. Donc ce sont des gens très 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 fragiles, particulièrement fragiles, qui souvent ne parlent pas la langue aussi.
Comment arrivent ces migrants chez vous ?
Alors là, c'est très complexe. Hein. Ils arrivent en France, soit de toute façon, ils sont rentrés de façon illégale. Hein. Pour les mineurs, ce sont des passeurs. Les trois jeunes maghrébins que j'ai rencontrés sont arrivés de l'un de Tanger sous un camion, hein, très franchement. Hein. après en passant par l'Espagne, ensuite par train depuis Perpignan, il est arrivé sur Bordeaux, l'autre dans une remorque d'Algérie, voilà. Hein. Et les jeunes africaines noires, elles, qui sont du Congo pour la plupart, et le Sri Lankais qui est arrivé aussi, ils arrivent en avion, ils ont de faux passeports, parce qu'ils arrivent par des passeurs, avec des passeurs, qui leur fournissent des faux passeports, qui reprennent ces passeports une fois qu'ils sont arrivés à Paris, et après qu'ils les déposent dans différents lieux, dans différentes villes. Voilà comment ça se passe.
Qu'est-ce qui a déclenché la motivation de vous engager ?
Je n'ai pas eu le choix. Voilà. Après, je trouve qu'il y a des situations d'une telle injustice que je ne peux pas faire autrement que de m'indigner face à ça. Voilà. Il y a une loi, il y a un droit, il faut le faire respecter. Les migrants, ils n'ont pas les armes pour faire respecter ces droits-là. Ils ne sont pas armés. Ils ne parlent pas français, ils ne connaissent pas les droits, ils ne connaissent pas les lois. Je vais vous dire, quand on lit une loi, j'étais pourtant professeur de français, quand on lit une loi, on ne comprend strictement rien. Il faut vraiment... C'est très complexe. Hein. Donc, c'était pour aider ces gens face à une injustice de départ et au fait qu'ils soient démunis au départ.
Cœur meurtri. Pourquoi tant de viols ? Pourquoi tant de filles perdent-elles leur virginité ? À cause de personnes sans loi ni fierté ? Tant de victimes pleurant la nuit, traumatisées, pendant que dorment comme des bébés. Ils ne regrettent rien, au contraire, ils en sont fiers. Mais fiers de quoi exactement ? De laisser des filles sans repère ? Et ces actes peuvent parfois être commis par leur propre père. Voilà pourquoi ma fille, je te répète de ne pas sortir le soir, seule, sans ta mère. Un poème de Fatima Ababou.
Claire Mestre aussi travaille avec des migrants à l'association Mana. Elle propose de soigner par les mots et pas forcément des mots français. Elle fait appel à des traducteurs pour pouvoir communiquer au plus près des personnes.
Comment vous les aidez concrètement ?
Alors en fait, c'est vrai que ça paraît être un peu abstrait de pouvoir aider quelqu'un par la parole. Mais il se trouve que justement pouvoir parler de soi, pouvoir partager sa douleur, eh bien ça aide. Ça aide pourquoi ? Parce qu'on y voit plus clair en soi et parce que ça permet, je dirais, de maîtriser un peu plus sa destinée. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus difficile que d'avoir le sentiment de n'être compris par personne, en fait. Voilà. Donc c'est ça, le pouvoir de la parole. C'est tout simplement ça.
Et comment faites-vous pour communiquer avec vos patients ?
Alors voilà, ça c'est tout l'enjeu du soin, hein, du soin, ce qu'on appelle le soin transculturel ou interculturel, c'est de pouvoir communiquer. Donc... On a des interprètes qui sont intéressés par le travail. Des interprètes qui savent parfaitement choisir les mots pour traduire ce que disent les patients. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, je suis aidée par des psychologues et des anthropologues. Les anthropologues connaissent, par exemple, les pays d'où ils viennent. On a une idée d'où ils viennent, comment ils vivaient avant, comment ils éduquaient leurs enfants, par exemple. Donc ça, c'est pas seulement pour communiquer avec les gens, mais c'est pour mieux les comprendre et mieux prendre en compte le pays d'où ils viennent. Et puis aussi le fait quand ils sont partis, ils ont perdu beaucoup de choses, ils ont dû vraiment s'adapter à une nouvelle situation.
C'est possible que certaines personnes en difficulté rejettent votre aide ?
Ça me rappelle une histoire, d'ailleurs, je peux peut-être vous raconter une petite histoire d'un jeune, comme ça arrive malheureusement de plus en plus fréquemment, comme je vous disais, il y a beaucoup de jeunes qui quittent leur pays. C'était un jeune tchadien qui avait fui le Tchad parce qu'il avait été enlevé par l'armée pour aller se battre donc sur la frontière du Soudan. Donc il était mineur à l'époque. Et comme il s'était enfui, il avait été arrêté, il avait été torturé et il était venu en France. Et donc ce jeune que j'ai soigné très longtemps, été scolarisé d'ailleurs, hein. Et puis il n'arrivait pas à avoir un statut pour rester en France, donc il était très, très désespéré en fait. Et donc il m'a dit « ça sert à rien de parler, j'en ai marre, je m'en vais ». Je lui ai dit « ben, comme vous voulez, hein, ça, je ne peux pas vous empêcher de partir, mais si un jour vous voulez me revoir, eh ben, revenez me voir ». Et quelques mois après, il a repris rendez-vous avec moi. Il m'a dit « ben voilà, je vous remercie quand même pour l'aide que vous m'avez apportée, j'ai eu mes papiers ». Et de temps en temps, comme ça, il vient me voir et puis il me raconte, comme si j'étais un peu une grand-mère à qui il pourrait confier son chemin, ses soucis aussi, hein, parce que sa vie de jeune homme est très difficile. Voilà, mais bien sûr, on a des relations humaines, et dans la relation humaine, il y a aussi le refus, hein, le refus d'être aidé, bien sûr.
La vie d'un pauvre. La pauvreté, c'est la misère de l'homme. La pauvreté, c'est une personne qui n'a plus à manger. La pauvreté, c'est un visage triste, plus un sourire. La pauvreté, c'est le fait de ne plus penser à l'avenir. La pauvreté, c'est la malédiction que tout le monde redoute. La pauvreté, c'est chaque jour une chance de vivre. La pauvreté, c'est plus un sou en poche. La pauvreté, c'est vivre abandonné de tous. La pauvreté, c'est chercher où dormir le soir. La pauvreté, c'est ignorer l'avenir qu'on pourra donner à ses enfants. Un poème de Zina Rouba.
David Dumont aussi s'engage auprès de personnes qui viennent d'ailleurs. Il fait un travail de médiation sur les squats de Bordeaux où vivent les Roms. Il nous en parle.
Pouvez-vous nous expliquer qui sont les Roms ?
Alors, qui sont les Roms ? Alors, je vais essayer de le définir, mais c'est un peu comme si on me posait la question qui sont les Français ou qui sont les Blonds ? C'est qu'il y a déjà, il faut se dire, parce qu'on est Roms, qu'on est tous pareils. C'est parce qu'on est Français, qu'on est tous pareils aussi. Les Roms, c'est la première minorité européenne. Après, il y a différents groupes roms. Il y a des groupes roms, alors, qui c'est eux qui vont dire « Non, non, moi je suis pas rom, je suis gitan, alors, c'est plutôt du côté de l'Espagne, je suis plutôt manouche, ou je suis rom, en Europe de l'Est. » Alors, les personnes dont je parle, c'est vraiment des personnes qui s'identifient comme roms et qui viennent d'Europe de l'Est et qui font partie d'un groupe qui a une langue, une culture, le romanès, et qui est présente en Europe depuis plus de 1000 ans. Moi, les familles auprès de qui je travaille, majoritairement, elles sont roms, mais pas que. C'est pas parce qu'on est rom à Bordeaux qu'on vit dans un squat ou un bidonville, et c'est pas parce qu'on est dans un squat ou un bidonville à Bordeaux qu'on est forcément rom. Moi, je parle roumain et romanès, et beaucoup de personnes nous disent « mais moi, je ne suis pas rom, je suis bulgare turcophone, ou je suis bulgare-bulgare », et je le vois, parce que de toute façon, elles ne connaissent pas non plus la langue. Donc... par rapport aux familles auprès de qui je travaille, moi, c'est des personnes qui n'habitaient pas en caravane, qui avaient une maison en Roumanie, en Bulgarie, qui connaissaient aussi des discriminations, souvent qui n'avaient pas trop d'accès au travail, et qui ont fait le choix de venir en France, certaines depuis plusieurs années, tout ça. C'est un peu particulier pour les ressortissants roumains et bulgares, c'est qu'ils sont européens, mais ils ont le droit d'être en France, ils ont le droit de bouger en Europe, mais ils n'ont pas le droit de travailler sans avoir une carte de séjour, comme d'autres étrangers qui ne sont pas européens. Et ça veut dire qu'un patron, une entreprise, si elle veut leur faire un contrat, elle doit faire une démarche en préfecture. Bien qu'ils soient européens, ils n'ont pas accès au travail, en tout cas, et ça jusque normalement à la fin de l'année. Ça peut générer aussi une montée du racisme en disant « bah voilà, les Roms, ils sont là pour avoir les aides sociales ». Mais les gens ne savent même pas qu'ils n'ont même pas droit. Ils n'ont pas droit au RSA, ils n'ont pas droit à la CAF tant qu'ils n'ont pas une carte de séjour, alors qu'ils sont européens.
Qu'est-ce que le travail de médiateur ?
Mais en gros, le médiateur, il a un rôle aussi de pouvoir créer du lien là où le lien n'existe pas ou n'existe plus. C'est essentiel, je pense, de réfléchir à là où il n'y a pas de lien. En fait, c'est dangereux parce que ça peut créer à la fois du non-droit, ça peut créer aussi du racisme chez les personnes qui constatent ça, qui disent « Ah, mais les gens sont comme ça. Parce qu'ils viennent de tel pays. Parce qu'ils ont telle culture. » On se rend compte qu'en créant un peu ce lien, on essaie que chacun se connaisse un petit peu mieux. Et ça, c'est un vrai objectif au-delà de juste de quotas, de qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Non, il y a un peu une philosophie quand même dans la médiation. Et l'objectif vraiment de la médiation, c'est de dire aujourd'hui, il n'y a plus besoin de mon travail. Alors, je vais pas dire que mon rêve, c'est d'être au chômage, hein, mais de dire qu'à un moment, la médiation, elle est là pour dire ben, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de moi. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'à la fois, ça veut dire que les personnes sont en capacité respective, que ce soit la mairie ou que ce soit aussi des familles, de travailler ensemble sans avoir besoin d'une personne qui fasse le lien.
Palestine, des terres volées, des maisons saccagées, un peuple effondré, des mosquées brûlées, des écoles cassées, un peuple, un pays ravagé, des enfants tués, des familles parties en fumée, des cœurs brisés, des pensées embrumées, triste réalité. Ai-je le droit de vivre ou suis-je destiné à mourir? Média, vous pleurez pour Whitney Houston, mais pour la Palestine, il n'y a plus personne. Un poème de Yasmine Saïdi.
Dernier intervenant que vous allez écouter est Angel Villar, républicain et résistant espagnol sous Franco.
Pour moi, le mot engagement signifie ce que l'on a fait par obligation pendant la guerre d'Espagne. Parce qu'il fallait s'engager du fait que nous n'avions pas d'armée, nous n'avions pas d'armes, et puis on avait en plus le fait que les Français et les Anglais étaient contre les Espagnols républicains. Pour moi, s'engager, c'est ça. C'est se mettre en défense de sa patrie avec les possibilités qu'on avait les uns et les autres. Voilà. Et puis on a perdu la guerre, et puis après on a tout perdu, parce qu'on n'a pas pu revenir. Parce que si on revenait, on a été passé à la guillotine comme les autres.
Que pensez-vous du monde d'aujourd'hui ?
Le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il est assez mal orienté, parce que ça va dans une voie assez triste, où l'on veut aller plus loin que l'on ne peut aller, et il y en a très peu qui veulent suivre. Alors évidemment, il manquera toujours du monde pour suivre un bon chemin. Alors on n'arrivera jamais à se sortir de tout ce que l'on doit faire pour que ça aille bien, parce qu'évidemment, que ce soit l'Espagne, que ce soit un autre pays, il y a des riches et des pauvres. Et des très riches et des très très pauvres. Et puis ceux-là, on ne leur vient pas en aide, parce que ça coûte de l'argent. Les autres, c'est l'argent qu'eux ils donnent, qu'ils travaillent avec. Alors évidemment, moi, je ne suis pas dans ce contexte. Si on peut faire de sorte qu'on s'aide les uns aux autres, dans ceux qui ont du besoin, de la nécessité, très bien. Mais pour le reste, non, parce que malheureusement, la politique vit de toutes ces choses qui se disent, mais qui ne se font pas. Et alors, ça sera toujours pareil, ça continuera à être pareil. On le voit bien avec la France, et on le voit bien avec l'Espagne.
Vous avez entendu l'ensemble des personnes que nous avons interviewées. Il reste encore quelqu'un que nous avons rencontré pendant le projet et qui nous a marqué.
On va vous présenter un poète engagé. Il s'appelle Salah El Hamdani. Il a découvert la poésie dans un endroit dénué de création, la prison, un endroit sinistre. C'est bizarrement dans ce lieu qu'il a découvert quelque chose qui allait changer sa vie, la poésie.
Ce qui nous a touchés, c'est quand il était petit garçon et que son père ne voulait pas qu'il aille à l'école. Il préférait que son fils aille travailler. S'il ne ramenait pas ne serait-ce qu'une seule pièce, il ne pouvait pas rentrer chez lui ni y dormir. Ce qui nous a également touchés,
c'est le jour où on lui avait demandé de tuer des enfants kurdes et qu'il a refusé. Il était dans l'armée en tant que soldat irakien et c'est pour cela qu'il a été emprisonné, pour désobéissance.
Les personnes que nous avons interviewées nous ont impactés par leurs actes, leurs pensées et leurs investissements dans les causes qui leur tiennent à cœur.
Il leur arrive de mélanger la vie professionnelle et privée au profit de personnes en difficulté, ce qui est particulièrement touchant.
Leur sincérité et ouverture d'esprit nous ont amenés à réfléchir. L'engagement est une forme de solidarité.
Au cours de ce projet, nous nous sommes aussi rendus dans la rue pour tendre nos micros aux passants et comprendre ce qu'ils pensaient de l'engagement.
Pour vous, qu'est-ce que s'engager ?
L'engagement, disons, ça dépend de comment on l'entend, mais s'engager dans quelque chose, dans la culture, s'engager dans le bien des autres aussi, voire un petit peu s'engager dans les associations.
C'est un sujet qui est vaste, l'engagement. C'est aller jusqu'au bout des choses, essayer de les faire correctement. Il y a plein de causes pour lesquelles on peut s'engager, l'humanitaire, le solidaire.
Comment dire, je m'engage dans tout ce que je fais, alors bon, c'est ça. Pour moi, c'est ça l'engagement. Que ce soit la vie politique, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit n'importe quoi. C'est ça l'engagement. Pour moi, l'engagement, c'est ça.
Donc je pense que s'engager, c'est participer donc à la vie de la société, de la vie en société. On est tous des citoyens, tout le monde a le droit de donner son avis. Et puis les critiques constructives, il n'y a pas mieux quoi, pour avancer. Voilà, l'engagement, tout le monde doit s'engager. Et la politique, c'est trop important pour qu'il n'y ait que les hommes politiques qui s'en occupent.
L'engagement, c'est je pense quelque chose qui est très personnel aussi. Et qui peut être aussi à la fois une démarche pas à prendre à la légère, donc ça dépend pourquoi on s'engage aussi, hein. C'est vague.
Voilà. La qualité, pour moi c'est la qualité, déjà c'est déjà ça.
Alors pour moi l'engagement, c'est être solidaire de l'ensemble de la société, essayer de participer au fait que tout le monde puisse vivre ensemble en ayant le minimum de dignité pour chacun.
Voilà, l'engagement, c'est par exemple comme moi, je viens faire marcher en vélo ou en tram ou à pied, ne pas prendre la voiture, l'engagement, c'est plein de choses comme ça, tu vois, voilà, de vivre plus sainement, de vivre une vie plus saine, plus moins stressée, moins, voilà, c'est ça. Hein, voilà.
C'est une valeur éthique.
L'engagement, c'est se consacrer à une cause ou à une action et s'y mettre à fond, essayer de jouer le jeu à fond pour assumer ses responsabilités, mais en même temps pour que ça vous apporte suffisamment.
Alors, l'engagement, ça représente pas mal de choses. C'est s'affirmer, être sûr de soi, avoir confiance en soi, croire en ses valeurs et aux autres, faire confiance aux autres. Avoir des objectifs, voilà.
D'accord. Et si vous deviez vous engager dans quelque chose, ce serait dans quoi ?
Disons que je m'engage surtout actuellement dans les gens que je vois autour de moi, sur la pauvreté. Je disais que c'est important de voir actuellement des personnes qui sont dans le besoin et de les aider.
Moi, j'aimerais bien m'engager pour l'humanitaire, mais bon... Je me sens un petit peu âgée pour le faire et j'ai trop de choses à faire, mais je trouve que l'humanitaire, c'est une belle cause à défendre.
Tous les domaines, n'importe quel domaine. N'importe quel. À condition que ce soit, évidemment, qu'on puisse s'engager. Voilà, c'est ça le problème.
Dans tout ce qui peut arranger les choses, parce que c'est un gros bordel, j'arrive à 40 ans, vous êtes jeune, on sait pas, on connaît pas, on comprend pas les règles du jeu, on sait pas comment se situer pour assurer un avenir correct. On a l'impression qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, donc on se bouge, quoi. Mais en même temps, faut un petit peu peut-être changer de modèle et arrêter de laisser les affaires gérées par des gens qui font rien, quoi.
Je pense que je m'engagerai surtout pour sauver les gens qui sont dans la rue. Voilà. Je pense que c'est la priorité, je pense, aujourd'hui. Il y a une telle richesse en France que de voir des gens qui sont à la dérive, je pense que ça serait un engagement, je pense, important à faire. Ça existe déjà, on voit avec les Restaurants du Cœur, des choses comme ça. Il y a plein d'associations en France qui luttent contre ça, mais il faut faire encore plus. Je pense que c'est jamais suffisant de toute façon.
Oui, je suis rôtisseur. Voilà, je fais cuire des poulets, donc issus de l'agriculture biologique. Donc déjà, je suis engagé au niveau de l'agriculture biologique.
Alors moi, je me suis engagé pour le parti pour la décroissance. Parce que je pense qu'on est dans une société de croissance et que c'est à cause de la croissance qu'on détruit la planète et qu'on appauvrit tout le monde. Donc il faudrait essayer de sortir de cette machine infernale et essayer de trouver une autre manière de vivre qui est plus dans le partage et la solidarité.
C'est trop tard. Non, c'est pas que c'est trop tard, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de s'engager, je vais te dire, dans la vie. Il faut être entouré, tout seul, comme ça. C'est pas évident, je vais te dire. Mais bon, je sais que j'ai des engagements, je sais que j'ai plein de choses dans la tête, mais...
La nature.
Peut-être une cause humanitaire ou... peut-être s'engager pour fonder une entreprise ou une cause, oui, une cause plutôt humanitaire. C'est la prise de conscience que dans la vie, on est dans une famille qu'on n'a pas choisie et que parfois, on est obligé de subir, par exemple, dans un pays où il y a une dictature, on est obligé de subir un système politique qui oppresse l'individu, comme en Chine, comme ailleurs, en Corée du Nord ou... Et donc, je pense que l'enfant, quand il naît, il est innocent, voilà. Et après, il subit un certain nombre de choses, malgré lui. Voilà, c'est ça qui me fait agir.
C'est une question philosophique. Déjà, les causes humanitaires, ça, je pense que ça rassemble beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Tout le monde pourrait s'engager là-dedans. Après, c'est juste d'accorder du temps et de faire l'effort pour accorder du temps pour ça.
D'accord, merci. L'émission touche maintenant à sa fin. Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont permis de réaliser cette émission, Alice, Aude Radio, nos professeurs et le reste de la classe qui a aussi réalisé les interviews avec nous. Et un grand merci aux personnes engagées qui ont accepté de répondre à nos questions.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews que nous avons réalisées sur le site d'Aude Radio, www.auderadio.net, onglet atelier. Merci d'avoir écouté nos débuts sur les ondes. Nous faisons une petite dédicace au collège Édouard Vaillant.
Ouais.